Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
La fin d'une parenthèse enchantée. Les JO 2024 se sont refermés ce matin pour nous. Nous y revenons dès le début de ce journal. Un journal dans lequel vous retrouverez, comme chaque lundi, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. 800 millions de dégâts, 1 milliard de pertes de chiffre d'affaires. L'OPT aussi a été touché par les émeutes et va devoir faire évoluer son modèle économique. En métropole, une nouvelle vague de chaleur attendue. 45 départements seront en alerte orange demain avec des températures frisant les 40 degrés par endroit. Et puis à l'étranger, incursion de l'armée ukrainienne en territoire russe. Kiev veut étirer les forces russes et déstabiliser Moscou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous allons évoquer dans un instant ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Mais avant cela, Mickaël Juneski, un mot sur notre magazine des sports. Il fallait une fin, c'était ce matin. Les JO se sont refermés.
Et Paris, c'est fini, mais le pari est réussi. La cérémonie de clôture qui a passé le flambeau officiellement à Los Angeles après 19 journées de compétition dans la capitale. La France et le sport qui rayonnent, une 5e place au classement des médailles. Des Calédoniens, on le rappelle, qui ont pris part à cette Olympiade. Nous en parlerons d'ailleurs avec le président du CTOS. Quel bilan de ces JO ? Quelle retombée aussi pour le mouvement sportif calédonien. Christophe Dabin sera notre invité ce midi.
Et puis des nouvelles aussi dans le magazine des sports du côté du foot calédonien.
C'est l'annonce du jour. La fédération calédonienne qui stoppe les compétitions élites en raison de la crise qui rend impossible le bon déroulement de la Super League, mais aussi de la Coupe de Calédonie, des compétitions féminines ou encore du futsal. Son président s'est exprimé officiellement aujourd'hui après avoir consulté les clubs. Nous y reviendrons évidemment dans le mag des sports.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Dans le Mag des Sports, nous reviendrons sur la dernière journée de compétition des Jeux Olympiques. On dressera évidemment un bilan, notamment au tableau des médailles, mais nous allons revenir dès l'ouverture de ce journal sur la cérémonie de clôture qui s'est déroulée devant 80 000 spectateurs. Et des millions de téléspectateurs. C'était ce matin pour nous, Mickaël.
Un spectacle de près de 3 heures avec le défilé des délégations d'athlètes, les porte-drapeaux tricolores, Pauline Ferrand-Prévot et Antoine Dupont. En effet, une autre casquette attendait le nageur quadruple champion olympique, Léon Marchand, ou plutôt un autre costume. Il s'est fait le porteur d'une lanterne olympique pour guider le public dans les différents tableaux de ce show, depuis la vasque olympique jusqu'au Stade de France. À l'heure des discours protocolaires, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, a malheureusement remercier les sportifs français et de manière générale tous ceux qui ont travaillé au succès de ces JO de Paris.
Du jour au lendemain, toute la France est devenue olympique. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à avoir œuvré pour le succès de Paris 2024. Vous avez fait de ces Jeux vos Jeux. Vous avez toutes et tous été au rendez-vous. La France a été au rendez-vous. On se voyait comme un peuple d'irréductible râleur, on s'est réveillé dans un pays de supporters déchaînés qui ne veulent plus s'arrêter de chanter. Ce soir, je n'ai jamais été aussi fier d'être français. Ensemble, nous avons montré le plus beau visage de la France.
Et c'est le président du comité international olympique, Thomas Bach, qui s'est chargé de clore les JO de Paris en félicitant tous les athlètes.
Malgré toutes les tensions qui troublent notre monde, vous êtes venus des 206 comités nationaux olympiques et de l'équipe olympique des réfugiés. Vous êtes venus pour faire briller la ville de lumière d'un éclat plus vif que jamais. Vous nous avez montré toute la grandeur dont l'humanité est capable. Nous le savons, les Jeux Olympiques ne peuvent créer la paix. Mais les Jeux Olympiques peuvent créer une culture de la paix qui inspire le monde.
Merci Paris, merci la France, vive les Jeux Olympiques, vive la France!
Le monde sportif sur le devant de la scène, avant de laisser la place aux artistes, aux feux d'artifice, aux spectacles pyrotechniques, près de 300 participants aux côtés des stars, jusqu'à Tom Cruise pour une descente du Stade de France en rappel sur le thème de Mission Impossible, avant de monter à moto, le drapeau olympique en main et un passage de relais symbolique à Los Angeles, prochaine ville d'accueil des JO d'été, avec un concert cette fois en Californie des Red Hot Chili Peppers, de Snoop Dogg et Dr. Dre, avant de revenir au Stade de France sur l'interprétation de My Way de l'artiste française Isolt. Compilation de cette conclusion musicale.
you. Da 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 da. You know we're mobbing with the D-R-E.
Yeah, yeah, yeah. Y'all know what this is.
Jingle Wars.
Je déclare les Jeux de la 33e Olympiade Paris 2024 clos.
The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I did it my way.
Un spectacle haut en couleur, encore une fois concocté par Thomas Joly, le directeur artistique des deux cérémonies de ces JO de Paris. Le président de la République n'a pas manqué de souligner la réussite de ces Jeux Olympiques et des athlètes français engagés. Désormais, tous les regards seront tournés vers les Jeux Paralympiques, toujours à Paris, à partir du 28 août, avec, on le rappelle, des Calédoniens engagés, Pierre Ferbanque, Félicien Siapo, Vittorio Cavacava. Emmanuel Macron a déjà convié, par ailleurs, l'ensemble des sportifs engagés dans ces Jeux à défiler encore le 14 septembre sur les Champs-Élysées pour clore définitivement cette page de l'Olympiade à Paris.
Et parmi les personnes qui saluent la réussite de ces JO, David Lapartient, le président du Comité National Olympique et Sportif, le CNOSF, il se félicite d'une réussite sportive, mais aussi en termes de sécurité et d'organisation.
Le succès de Paris 2024 en termes d'organisation et le succès de l'équipe de France Olympique en termes de résultats, les deux concourent à ce que ces Jeux Olympiques soient exceptionnels. L'opinion publique est totalement en faveur des Jeux Olympiques. Il y a une ambiance de liesse dans Paris, en France tout entière. On voit des vidéos extraordinaires. Moi, je pense à cette vidéo où je voyais ces policiers danser le rock avec un certain nombre de chanteurs dans des endroits où on n'était pas forcément habitué à le voir. Mais je trouve que c'est ça aussi la France. C'est la France qui se réunit, la France qui est unie. Et c'est le pouvoir magique en fait des Jeux Olympiques. Donc vraiment, bravo à tout le monde.
David Lapartient, le président du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Alors, on reparlera évidemment de ces Jeux Olympiques Paris 2024 dans notre mag des sports à la fin de ce journal pour évoquer la dernière journée de compétition, dresser un bilan aussi au tableau des médailles, et nous serons en compagnie du président du CTOS, Christophe Dabin, qui évoquera la clôture de ces Jeux sur le plan sportif et qui reviendra sur les performances des athlètes calédoniens. En attendant, c'est le rendez-vous du lundi. Je vous propose de retrouver la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Le monde indépendantiste est dans le déni et c'est assez hallucinant. Depuis des semaines maintenant, nous assistons aux récriminations des populations du Nord et des îles qui se plaignent des difficultés d'approvisionnement ou de la dégradation de leur système de santé quand ils ne déplorent pas la mort du tourisme. Et c'est sans parler des habitants des quartiers nord de Nouméa qui tempêtent contre l'absence des transports en commun ou dénoncent la fermeture du collège de Rivière-Salée. Et tous, ils regrettent une paupérisation qui les frappe comme si c'était une injustice, voire une malédiction, dont on ne connaissait pas la cause. Mais ce n'est pas une catastrophe naturelle qui a provoqué la situation dramatique de ces populations et l'effondrement économique de la Nouvelle-Calédonie. Et ce phénomène de déni, soigneusement entretenu par les élus indépendantistes, est proprement ahurissant. Même s'ils n'y ont pas directement participé, et certains d'entre eux en sont incontestablement les victimes, beaucoup dans les provinces nord et îles ont soutenu, consciemment ou non, le mouvement insurrectionnel. Mais ils refusent aujourd'hui de faire le lien entre les émeutes et leurs conséquences, ou ils en font porter la responsabilité à d'autres. Ils sont véritablement dans le déni, qui est un refus inconscient de prendre en compte une partie de la réalité vécue comme inacceptable. La psychanalyse nous explique que c'est un mécanisme de défense par lequel le sujet refuse de reconnaître la réalité d'une perception ressentie comme menaçante ou traumatisante. Au rythme où ça va, c'est à une psychanalyse collective que va devoir se livrer la Nouvelle-Calédonie, sauf à expliquer à ces populations en déshérence que ce qu'elles vivent est un aperçu de ce que serait une accession à l'indépendance. Mais avant la psychanalyse, il y a quelques priorités. Et d'abord le rétablissement de l'ordre, partout, en commençant par la libération des habitants du monde hors-sud et le règlement de la situation de la tribu de Saint-Louis, centre névralgique de la CCAT. Parallèlement, il y a la poursuite des procédures judiciaires et leur aboutissement, qui ne devrait épargner aucun des commanditaires ou des complices de l'insurrection. Concomitamment, il faut aussi s'attaquer à l'économie, avec la volonté de sauvegarder, reconstruire et refonder un triptyque ambitieux, indispensable pour éviter la catastrophe sociale. Et simultanément aussi, il faut apporter une réponse politique à la crise. Et ce ne sera pas le plus simple. Le président de la République propose de réunir les partenaires calédoniens à Paris dès le mois de septembre. Un pari ambitieux pour un rendez-vous qui semble prématuré. Mais d'un autre côté, il y a urgence et à défaut de la recherche d'un accord global qui a des allures d'horizon inaccessible, il va falloir trancher la date des élections provinciales et son corollaire, la question brûlante du corps électoral. Deux sujets sur lesquels il y aura de part et d'autre de fortes divergences. Côté indépendantiste, on semble privilégier des élections avant la fin de l'année, mais sans toucher au corps électoral, ce qui est impossible. Et quand on sait que la CCAT réclame ses provinciales pour renouveler et rajeunir l'ensemble de la classe politique, on se dit que cela ne fera pas l'unanimité au sein du FLNKS. Chez les partisans de la France, on estime que les conditions ne sont pas réunies pour des élections avant la fin de l'année. Mais d'un autre côté, on voit mal le maintien au pouvoir pour plusieurs mois encore de la majorité indépendantiste. Un casse-tête supplémentaire en perspective, mais auparavant, ce sont les indépendantistes qui devront régler quelques problèmes lors d'un impossible congrès prévu à la fin du mois et lors de la célébration du 24 septembre, puisqu'ils hésitent entre déclaration unilatérale d'indépendance et fête de la citoyenneté. Finalement, on comprend qu'ils préfèrent se réfugier dans le déni.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réécouter ce soir, juste après notre flash de 16h. Toujours au chapitre politique, en bref, ce communiqué de presse signé Maria Waka, élue du groupe UCF-LNKS et nationaliste au Congrès. Lors de la séance publique du 8 août dernier, elle avait appelé les élus à un devoir d'exemplarité en cette période de crise. Le groupe a déposé un vœu en ce sens au bureau du Congrès. Il sollicite, je cite, « que le gouvernement travaille avec les provinces afin de déterminer dans quelle mesure les élus provinciaux et les membres du gouvernement puissent participer à des économies budgétaires au travers de leurs indemnités et des différents frais ». Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la décision du président de la République de donner son feu vert à l'envoi en août d'une mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. À 11h44, une première pause dans ce journal. Nous reviendrons dans un instant sur ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Trois mois après le début de la crise insurrectionnelle, l'OPT vient de faire un premier bilan des exactions. Le directeur général de l'Office, Thomas de Decker, était ce matin notre invité, Gilles Ménage.
Dégâts matériels, conséquences économiques et sociales, l'OPT n'a pas été épargné par les émeutiers qui ont détruit plusieurs agences, pillé les distributeurs de billets ou encore volé des voitures. Et l'addition est lourde pour l'Office, nous a dit Thomas de Decker.
On est à peu près à 798 millions, donc 800 millions de dégâts. Ça va de 4 agences brûlées, une vingtaine de distributeurs automatiques de billets partis en fumée, quelques voitures. Et on a également cet effet volé de 200 millions de francs en liquide. On a également des pertes de chiffre d'affaires. On les estime aujourd'hui à plus d'un milliard. Un bilan de la crise qui avoisine les 2 milliards de francs entre les dégâts et les pertes de chiffre d'affaires. Sur l'emploi salarié, donc, il y a eu une trentaine de postes de travail qui ont été détruits avec les agences. Les salariés ont été reclassés en interne au sein de l'entreprise. Par contre, très clairement, sur malheureusement les CDD, on va ne pas les renouveler. C'est une centaine d'emplois, temps partiel, temps complet ou non complet, sur 1200 agents.
Si le fonctionnement des agences est redevenu normal sur l'ensemble du territoire, exception faite des agences de Thio et Wailou, la baisse de fréquentation et le développement du numérique vont avoir des effets sur le modèle de fonctionnement de l'OPT, estime Thomas de Decker.
Une des premières leçons de cette crise, ça a été de voir qu'on était en retard sur la digitalisation de nos services. Donc ça, on est en train d'accélérer le mouvement pour permettre aux Canadiens finalement d'être autonomes, que ce soit pour prendre un forfait, pour leurs opérations bancaires. La pénurie de cash nous a montré que le cash est important. On est en train de travailler sur une banque digitale, justement pour démonétiser le cash. Malheureusement, le produit arrivera en milieu d'année prochaine. Et en parallèle de ce travail, on est en train de revoir aussi la politique qu'on va mettre en place dans nos agences. On a à peu près 5% de gens qui viennent en moins chaque année au guichet de nos agences. Le fait de digitaliser les services, malheureusement, on est quand même à 30% de personnes qui sont en situation d'illettrisme, d'innumérisme. Et l'idée, c'est d'accompagner ces personnes dans leur démarche. Donc on a un travail avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, pour voir dans quelle mesure le réseau des agences OPT, qui est présent sur l'ensemble du territoire, va pouvoir être mis au service de l'accompagnement de ces populations.
Et avec l'évolution attendue des technologies, c'est aussi le modèle économique qui est à revoir.
C'est vrai que la lettre elle a vocation à disparaître. La Poste en métropole annonce la fin de la lettre pour 2030. Peut-être qu'en Calédonie sera un petit peu plus tard, mais on est sur la fin de vie de ce produit. Donc oui, on est en réflexion pour voir comment on rebâtit ce modèle OPT. Donc je vous parlais des maisons de service tout à l'heure, ça en fait partie. C'est également un des points centraux de notre réflexion.
Modèle de fonctionnement, mais modèle économique aussi qu'il va falloir éventuellement ajuster.
Exactement. Va se poser à un moment la question de l'ouverture du marché des télécommunications. Si cette question-là est traitée par le Congrès, il va falloir voir comment on finance les autres services publics. Est-ce qu'on les continue? Et si oui, comment on les finance autrement que par la facture téléphonique?
Thomas Dedecker, directeur général de l'OPT, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, une interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Et de son côté, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, s'est adaptée à la crise avec notamment un accompagnement personnalisé des entrepreneurs déjà en activité et un suivi plus pointu des dossiers, notamment ceux qui concernent la reconversion, Isabelle Pelletier.
L'après 13 mai aura vu chuter de manière drastique le nombre de dossiers de demande de microcrédit et d'accompagnement des projets. En mai, le chiffre était proche de zéro. En juin, il était de 15 pour une moyenne de 100 appels mensuels concernant des informations pour lancer ou développer une activité. La situation après 3 mois commence seulement à revenir à la normale avec 75 demandes en juillet et des profils qui commencent à varier. Les précisions d'Alexandre Dufault, le directeur des opérations à l'ADI.
Nous avons en fait tous les cas. Effectivement, il y a des personnes qui avaient mis leur projet en attente quand les événements ont commencé et que maintenant que la situation est plus stable et qu'on peut se déplacer facilement, ils relancent leur projet, donc ils nous contactent. On commence à voir de plus en plus des personnes qui ont perdu leur emploi récemment ou qui vont en perdre dans les semaines ou les mois à venir et qui et cette perte d'emploi est un peu un facteur déclenchant pour lancer leur projet. C'est souvent un projet qu'ils pouvaient avoir par ailleurs en tête et c'est la perte d'emploi qui permet de gérer le top départ pour travailler plus sérieusement dessus. Nous avons été contactés par la cellule de reclassement de Cognambo. Malheureusement, la mine va fermer et de très nombreux salariés vont se retrouver sans emploi. Donc on a participé à une réunion pour nous parler d'entrepreneuriat, pour dire que c'est possible, surtout si on peut apporter des solutions pour financer le projet, pour aider dans les démarches administratives, simplement rassurer. Ça permet de débloquer des situations.
L'ADI a donc 3 ou 4 jours après le début des émeutes choisi de se redéployer pour concentrer ses efforts sur les entrepreneurs déjà financés et ou en activité pour prendre connaissance de leurs éventuelles difficultés et leur apporter son soutien.
Concrètement, on a lancé une campagne de diagnostic auprès de nos clients entrepreneurs. On a pu joindre plus de 2500 d'entre eux pour faire le point. Le constat était clair, au plus fort de la crise, pour 80% d'entre eux, l'activité était totalement arrêtée. Qu'on ne pouvait pas se déplacer parce qu'on n'avait pas accès à ses fournisseurs ou à ses clients, tout simplement, ou plus d'essence en province nord, par exemple. Le constat qu'on peut faire aussi, c'est que, bien sûr, beaucoup étaient très inquiets. Ces appels ont pu déjà leur apporter, je pense, un soutien moral assez fort pendant cette période, pendant les premières semaines de crise. Et puis, on a pu commencer aussi à les conseiller, à les orienter vers les dispositifs d'aide qui ont été mis en place. Nous-mêmes, on a pu déjà aider très directement une partie de ces entrepreneurs. Concrètement, on a mis en place un prêt à taux zéro avec un différé qui va jusqu'à 36 mois, jusqu'à 3 ans, pour pouvoir financer la relance de l'activité à partir du mois de juillet ou à partir du mois d'août, ou même après, pour les entrepreneurs qui ont été impactés.
Alexandre Dufaux, directeur des opérations à l'ADI. Une aide financière donc pour financer un stock ou de la trésorerie. Concrètement, l'ADI propose encore un rééchelonnement des échéances de prêts sur plusieurs mois. L'association affirme avoir pu, encore une fois, faire le constat de la capacité de rebond des micro-entrepreneurs. L'ADI confirme enfin être présente sur tous ses sites, à Nouméa, à Koumaké, en province des Îles, et est joignable sur son numéro vert, le 05 05 55, le 05 05 55, pour répondre à toutes les demandes dans ces temps difficiles.
Quelques informations pratiques. D'abord, le trafic maritime perturbé entre le Mont-d'Or et Nouméa en raison des conditions météo qui annoncent de fortes rafales depuis 11h, mais aussi de la houle. Le Maridé a annulé ses rotations pour ce lundi 12 août. Les transferts des autres navettes sont pour l'instant maintenus, mais susceptibles d'être annulés au cours de la journée. Et puis le parc provincial de la Dembéa reste fermé jusqu'à nouvel ordre. La commune l'a fait savoir via communiqué ce matin. À partir d'aujourd'hui, l'accès au parc, mais aussi au trou des Nurses et aux sentiers de randonnée sont fermés au public pour des raisons de sécurité. Et puis la gendarmerie de Païta lance un appel à témoins après la fugue d'un adolescent. Kenu n'est pas rentré à son domicile de Katiramona. L'adolescent polynésien mesure 1m60. Il a les cheveux noirs et courts et porte des lunettes de vue. Il serait parti avec plusieurs vêtements, dont des suites à capuche gris et noir. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Païta directement ou alors composer le 17. De l'athlétisme pour les vacances scolaires à Nouméa. Les enfants profitent des pistes du stade du PLGC pour des activités organisées par le club Trakensee. Effet JO oblige, des journées rythmées par des initiations ludiques aux courses et aux sauts.
C'est mon premier stage ici, donc je trouve que c'est cool. En plus, c'est pendant les vacances, donc on a le temps. Il y a plusieurs sports. L'après-midi, on fait des trucs cool, j'irais, et aussi parce qu'il y a des copains.
J'ai choisi l'athlétisme parce qu'en fait, il y a le cross du collège et que j'aime beaucoup l'athlétisme et les sports où il faut courir.
L'athlétisme, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs activités, c'est divers, et j'aime bien cette adrénaline de se donner à son max à chaque fois.
J'aime bien les pas chassés, j'aime bien les montées de genoux, j'aime bien les haies.
Voilà, il y a des ateliers toute la journée, mais aussi des activités extérieures au programme comme le karting, la plage ou le cinéma. En tout cas, ce stage d'athlétisme a explosé les records d'inscription pour ces vacances grâce aux Jeux Olympiques, explique Hugo Bigère, coach sportif pour Trakensee.
C'est la première fois qu'on fait 2 semaines de stage. L'idée, c'était avant tout pour le club de faire profiter les enfants avec la pratique de l'athlétisme. Il y en a beaucoup qui découvrent, on a beaucoup de nouveaux. Et l'idée, c'est de les faire bouger pendant les vacances maximum. Il y a une maman qui m'a appelé ce matin, j'ai l'exemple là, qui m'a dit oui, mon enfant, il a vu les Jeux, il s'est dit qu'il allait se mettre à l'athlétisme. Ça pousse les parents ou les enfants à se mettre au sport. Et c'est super, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie de prendre au moins soin de leur santé ou de se faire plaisir.
Et la première semaine des vacances a attiré une centaine de jeunes. Il est 11h et bientôt 54 minutes. Dans un instant, on voit ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole reste dominée par la fin des Jeux Olympiques, mais aussi par la canicule. Le thermomètre doit afficher dans les jours qui viennent des températures qui devraient frôler les 40 degrés par endroit. La nuit prochaine pour nous, 45 départements seront placés en alerte orange. Pour faire face à ces canicules, les municipalités s'organisent au mieux et mettent en place des équipements fraîcheurs. À Toulouse, par exemple, la mairie a déboursé 14 millions d'euros, soit 1,7 milliard de francs, c'est-à-dire 3 fois plus qu'il y a un an pour cela, et pour des besoins précis, explique le maire de la Ville Rose, Jean-Luc Moudinc.
Nous avons installé des ombrières qui sont en place pendant la période estivale. On en avait installé quelques-unes l'année dernière en testant plusieurs types, plusieurs dispositifs, et puis cette année, on multiplie par 3 le nombre d'ombrières sur des places. On végétalise les places, on crée les jardins, on développe le système des fontaines, accessibles à tous. Et puis par ailleurs, on est engagé depuis 2019 dans un grand plan de végétalisation de la ville qui s'appelle le plan 100 000 arbres. Il s'agit de planter 100 000 arbres entre 2020 et 2030, ce qui, par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, représente un triplement du rythme de plantation des arbres.
Et avec les fortes chaleurs, les incendies aussi préoccupent les pouvoirs publics. Tout le monde se souvient, il y a 2 ans, de ce gigantesque incendie dans les Landes. 300 000 hectares étaient partis en fumée, rien que dans le département de la Gironde. Depuis, l'État a investi notamment pour équiper les unités de la DFCI, la Défense des forêts contre les incendies. Elle regroupe les propriétaires privés des forêts et leurs bénévoles sont mobilisés pendant les périodes sensibles. Guillaume Dreschler a suivi l'une de ces unités pour Europe 1 en Gironde.
Au cœur de l'été, Bernard Rablade, président de la section DFCI de Belin-Bélier dans le sud Gironde, part en patrouille tous les jours. Il utilise une application pour le géolocaliser.
On a aussi la possibilité de faire des constats sur le terrain. Si on trouve des dépôts sauvages, si on trouve des comportements anormaux.
À bord de son véhicule pick-up jaune, l'un des premiers livrés dès l'an dernier, Bernard parcourt la forêt dans une zone prédéfinie.
Le but, c'est de se faire voir, de faire comprendre aux gens qu'on est les acteurs de cette prévention. Et puis, le cas échéant, si on trouve des promeneurs, ce qui est de plus en plus le cas, de pouvoir discuter avec eux.
La nouveauté de 2024, ce sont des cuves de 650 litres avec une lance pour prévenir des débuts d'incendie. Nicolas Plessis, recruté cet hiver, est agent de surveillance forestière.
Sur les mises en place, par exemple, des pick-up, il y a une citerne d'incendie, il faut les sensibiliser sur l'usage de ce kit, comment on l'utilise. Donc on essaye de leur faciliter la chose.
Depuis l'épisode d'il y a 2 ans, la DFCI Aquitaine reçoit une enveloppe spéciale de l'État. 1 800 000 euros ont été débloqués en 2023 pour prévenir les risques d'incendie. Plus de 2 millions d'euros cette année.
L'actualité à l'étranger est marquée par cette offensive de l'armée ukrainienne en territoire russe dans la région de Koursk. Moscou affirme avoir repoussé des colonnes de chars à l'aide de frappes aériennes et de drones. La stratégie de l'Ukraine est d'étirer les forces russes et de déstabiliser Moscou. C'est ce qu'a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Aujourd'hui, le chef de la défense Syrsky a déjà fait plusieurs rapports sur la ligne de front, sur nos actions et sur l'avancée de la guerre sur le territoire de l'agresseur. Je suis reconnaissant à chacune des unités de nos forces de défense qui y veillent. L'Ukraine prouve qu'elle peut réellement faire régner la justice et garantit exactement le type de pression nécessaire, la pression sur l'agresseur.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À 11h58, on referme ce journal, mais dans un instant, on ouvre notre magazine des sports du lundi avec encore évidemment une belle page consacrée aux Jeux Olympiques.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Alors, 3 ans de garantie, plus 3 ans d'entretien, plus 200 000 francs d'avantage client, ça nous fait...
Pas la peine de chercher, Mini a fait le calcul pour vous. 3 ans de garantie, plus 3 ans d'entretien, plus 200 000 francs d'avantage, au total, ça vous donne toutes les bonnes raisons de vous offrir une Mini.
Alors, Mini 3 portes pour le fun, Mini 5 portes pour l'espace ou Mini Countryman pour l'aventure? À vous de choisir la Mini de votre vie en profitant de ces offres limitées avant le 31 août au showroom Mini chez Prestige Motors au 6e kilomètre. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 30 août 2024. Entretien simple 3 ans au 36 000 km, premier terme échu. Garantie 3 ans au 200 000 km, premier terme échu. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec le magazine des sports. Et on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et la suite avec les JO.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
On a parlé au début de ce journal de la cérémonie de clôture. Les JO 2024 à Paris sont en effet terminés. Le relais a été donné aux JO de Los Angeles pour 2028. Mais il y avait quand même, avant cette cérémonie de clôture, Michael Jeunesse, une dernière journée de compétition. Il y avait des disciplines à suivre. Malheureusement, le camp français n'a pas décroché de titre, mais toutefois, 2 nouvelles médailles d'argent.
Oui, une déception tout de même en basket. Hein. Au lendemain de la défaite de Victor Wembanyama et des Bleus contre la Team USA, les Françaises, cette fois, se sont inclinées à leur tour d'un petit point seulement en finale face aux Américaines, 67 à 66. Immense déception, d'autant que le dernier tir manqué de Gabby Williams aurait permis d'arracher des prolongations. Mais ce sera donc une deuxième médaille d'argent pour les basketteuses tricolores, comme à Londres en 2012. Et puis, une médaille d'argent également en pentathlon moderne. Et elle est belle, celle-là, pour Élodie Clouvel. Elle termine donc à la deuxième place du concours féminin. Sa réaction.
Je suis vice-championne olympique. Waouh, c'était magique. Aujourd'hui, cette médaille, c'est la médaille de la résilience. C'est la médaille de tout ce que j'ai pu traverser ces dernières années. Ça n'a pas été facile. Pour rester au plus haut niveau, ça a été... j'en ai bavé. L'an dernier, il y a un an de ça, je ne savais pas si j'allais continuer. Je voulais tout arrêter il y a un an, jour pour jour, si on regarde vraiment la date. Et au final, aujourd'hui, je suis vice-championne olympique à Paris, chez moi, en France. C'est incroyable, je voulais remercier tout le public qui m'a porté. Vraiment, c'était incroyable.
Voilà pour cette dernière médaille d'argent pour le camp tricolore. La France, on le rappelle, donc termine à la cinquième place du classement des médailles. Objectif atteint, les États-Unis ont terminé en tête. 40 médailles d'or sur 126 médailles devant la Chine. Également à 40 médailles d'or pour 91 podiums. Le Japon finit troisième avec un total de 20 médailles d'or. Et puis l'Australie termine à la quatrième place avec ses 18 médailles d'or, soit deux seulement de plus que le camp français.
Voilà donc pour le bilan des médailles. Mais c'est aussi le moment de regarder un peu dans le rétroviseur. Après ces JO, les émotions étaient en rendez-vous dès le début pour le camp français.
Oui, 64 médailles pour le clan tricolore. Évidemment, on ne pourra pas toutes les citer. Hein, les sportifs français qui ont répondu largement présents, que ce soit avec l'or ou sur les podiums. Ça aura été 19 journées bien remplies. À commencer, souvenez-vous, par le sacre de l'équipe de France de rugby à 7 avec cette venue concluante du Toulousain des Bleus, Antoine Dupont. Il nous a porté le premier sacre olympique dans ces JO. La première semaine fut riche d'ailleurs, et notamment le début de la razzia signée Léon Marchand, athlète le plus titré d'ailleurs dans ces Jeux. 4 médailles d'or sur les 400 mètres 4 nages, 200 mètres 4 nages, 200 mètres papillon, 200 mètres brasse et une de bronze avec les relayeurs Florent Madodou et bien entendu le Calédonien Maxime Grousset. Teddy Riner aussi a répondu présent pour le judo français, un titre en individuel et un titre avec l'équipe de France, avec dans son staff, on le rappelle, le Calédonien Laurent Caléja, il était dans nos studios la semaine dernière. De l'or encore, hein, souvenez-vous, pour Pauline Ferrand-Prévot en VTT, enfin. Et puis pour Joris Daudet en BMX à l'issue de ce triplé historique sur la race. Pour Nicolas Gestin en canoë slalom, pour Cassandre Beaugrand en triathlon. Manon Apiti a remporté le seul titre de l'escrime malgré les nombreuses finales et les nombreuses médailles dans cette discipline. Elle a été sacrée au sabre individuel féminin. Benjamin Thomas, lui, a sauvé l'honneur du cyclisme sur piste en remportant l'or sur l'Omnium, pas plus tard que ce week-end encore, si les sports collectifs ont connu plusieurs finales perdues, hein, comme en football, en handball féminin ou en basket, messieurs et dames. Les volleyeurs ont amené encore de l'or avec Hervé Lengapet et ses coéquipiers tombeurs de la Pologne en finale 3-7-0. Et puis le dernier titre nous est venu d'Altea Lorrain avec une médaille d'or historique pour le taekwondo. Et puis ces JO de Paris se déroulaient aussi dans le Pacifique. On n'oublie pas l'or décroché par Kaoli Vast sur l'épreuve de surf, le Tahitien dont la maman, on le rappelle, est originaire de Nouvelle-Calédonie.
Voilà donc pour les médailles d'or décrochées par le camp français. Il y avait aussi, on va s'intéresser un petit peu à eux, des Calédoniens dans ces Jeux.
Oui, nous avons évoqué bien sûr Maxime Grousset qui n'a certes pas réussi à décrocher de podium en individuel pour sa deuxième Olympiade. Il a réussi tout de même cet exploit, remporté le bronze avec le relais 4x100 mètres. Emma Terebo avait elle aussi participé aux épreuves de natation avec des finales. Là encore, sur le relais 4x100 mètres féminin et le 100 mètres d'eau, elle s'est classée 7e. Bassam Awem a également réussi à se qualifier jusqu'à la finale de l'escalade à vitesse, même si cette fois, celui qui avait dû jeter l'éponge en 2021 à Tokyo sur blessure n'a pas pu se hisser sur le podium à l'âge de 39 ans. Le cadre technique de la Ligue calédonienne d'escalade, Nicolas Goyard, n'a pas non plus réussi à se hisser en finale en planche à voile IQ Foil dans des conditions plus que compliquées sur le plan d'eau de Marseille, alors qu'il avait réalisé une superbe première journée avant d'accumuler trop de retard malheureusement dans les manches suivantes. Et puis en rugby à 7, Yolen Nyengo a cette fois connu le rêve olympique, hein, la Maréenne qui était dans le groupe élargi, souvenez-vous, à Tokyo sans pouvoir participer. Cette fois, elle a joué le tournoi où les Françaises n'ont pas connu le même destin malheureusement que les garçons. Nyengo et les tricolores qui ont tout de même représenté la France dans ces Jeux olympiques jusqu'à finir à la 5e place.